Mémoire vive,
présentée par Christelle Le Polotech
et préparée par Rachel Rimmer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. 2000 enfants ont été sauvés par l'OSE pendant la Seconde Guerre mondiale. Une exposition présentée actuellement aux Archives nationales raconte le parcours de 10 de ces enfants et retrace l'histoire des différentes filières de l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants. Une histoire que l'on va approfondir avec Sabine Zetoun, notre invitée aujourd'hui, pour son livre qui vient de paraître aux éditions de l'Harmattan, l'histoire de l'OSE, de la Russie tsariste à l'occupation en France, 1912-1944. Sabine Zetoun, bonjour.
Bonjour.
Au-delà de la période de la Seconde Guerre mondiale, votre livre nous permet d'en savoir beaucoup plus sur la création de l'OSE dans la Russie tsariste de 1912, mais également sur sa philosophie, ses principes et ses buts initiaux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que l'on revienne sur la jeunesse de ce livre, Sabine Zetoun. Vous aviez publié en 1990 votre thèse, toujours chez l'Harmattan, l'OSE, sous l'occupation en France. Vous nous livrez aujourd'hui une version considérablement augmentée, notamment de témoignages que vous aviez recueillis à l'époque. Pourquoi avoir choisi de revenir à ce projet 20 ans après ?
20 ans après, oui, nous allons fêter les 100 ans de l'anniversaire de la naissance de l'OSE, puisque l'OSE est né en octobre 1912 et nous sommes actuellement en octobre 2012. Et il y a 5 ans environ, je travaillais à la Fondation pour la mémoire de la Shoah et l'idée m'est venue d'essayer de retravailler toute la documentation que j'avais collecté durant toutes ces années de doctorat et montrer quelle avait été la philosophie de l'œuvre de secours aux enfants, à savoir comment cette intelligentsia juive composée d'avocats, de médecins, russifiés, complètement assimilés, comment cette intelligentsia a pu entrer dans les shtetls et essayer d'améliorer les conditions sanitaires, les conditions médicales de ces populations juives qui vivaient dans cette zone de résidence, qui étaient concentrées dans une zone de résidence. Et grâce à la prophylaxie, grâce à la vulgarisation, cette population juive a pu bénéficier de conditions sanitaires beaucoup moins précaires.
Justement, quelles sont les circonstances de la création de l'OSE en 1912, Sabine Zetoun ?
Alors, 1912, il faudrait parler quelques années avant, parler par exemple des lois discriminatoires de 1882, où les populations juives étaient stigmatisées, où les populations juives connaissaient des pogroms, où les populations juives connaissaient, on va parler de numerus clausus, voire de numerus nullus, ces populations juives qui ne pouvaient pas accéder à certaines professions et ces populations juives étaient extrêmement misérables. À partir de 1910-1911, des médecins comme le docteur Shenlov, docteur Gran, ont eu l'idée d'aller dans les shtetls et d'envoyer des détachements sanitaires. Alors ces détachements sanitaires étaient composés de jeunes, généralement c'était des étudiants en médecine qui étaient des étudiants à Moscou, dans les grandes villes, donc principalement à Moscou, et d'aller voir et d'essayer de connaître les besoins de ces populations juives. Donc c'était des études ponctuelles. Et pourquoi connaître ces besoins ? On connaît les besoins, donc on peut apporter exactement ce qui est nécessaire à ces populations juives. Au-delà même de ce côté hygiéniste, il y avait aussi cette volonté politique d'émancipation, cette revendication, une revendication politique, à savoir l'émancipation des populations juives, avec en filigrane cette revendication identitaire, à savoir le yiddish comme langue, mais également comme culture juive dans ces shtetls. Donc, à la fois revendication politique, mais aussi revendication culturelle et identitaire.
Comment ça va se combiner, ce travail de l'OSE, avec la révolution bolchevique ?
Alors, il y avait un parti qui s'appelait le parti folkiste. C'est un parti où l'émancipation des Juifs était très importante, surtout dans les shtetls. Et Le gros travail de Lozé a eu lieu pendant la Première Guerre mondiale, donc 14-18, où Lozé venait en aide à ces populations juives qui étaient dans les zones de combat. Et lors de la Révolution de 17, où un grand nombre de Juifs étaient des militants révolutionnaires qui pensaient que grâce à la Révolution, les choses allaient nettement améliorer pour ces populations juives, et il y a eu... On va peut-être pas parler de désespoir, mais il y a eu un grand découragement de ces intellectuels juifs.
Une désillusion.
Il y a eu des juifs de Lozé, de ces intellectuels qui sont restés, qui ont voulu poursuivre, comme le docteur Gran, qui ont voulu poursuivre cette révolution au-delà même des frontières. Et vous avez la grande majorité de ces intellectuels juifs qui sont partis et qui ont suivi en fin de compte les populations juives, puisqu'il y a eu des vagues migratoires aux États-Unis, etc. Et Lozé, les fondateurs, cette intelligentsia russo-polonaise juive, est partie et est venue s'établir à Berlin avec une volonté de créer une assise internationale. C'est pourquoi des filiales se sont créées dans les pays baltes, en Roumanie, en Pologne. En Pologne, c'est plus particulier puisque le TOZ, qui était une association juive, qui était un peu l'association sœur de Lozé, qui n'a pas voulu s'intégrer au sein de Lozé. L'OTOS, qui a joué un rôle considérable, voire même au début de la Seconde Guerre mondiale, avant d'être liquidée. Donc, Lozé de Berlin avec la montée du nazisme. Et ce qui est important de dire, c'est qu'à Berlin, Lozé s'occupait essentiellement, non pas des juifs allemands, mais essentiellement des juifs russes, polonais, des juifs qui avaient immigré de la Pologne, de la Russie, pour venir s'établir à Berlin.
C'est ce dont vont s'occuper les membres parisiens de Lozé à partir de 1933,
voilà.
Quand ils quittent Berlin. Ils vont avoir effectivement la population principale, ça va être la même finalement.
Voilà, c'est la même. La population Lozé donc vient s'établir dans les années 30, l'avènement du nazisme. Lozé vient s'établir à Paris. Elle s'occupera... essentiellement, certes, des immigrés juifs de Russie, de Pologne, mais pas exclusivement, puisque il y avait déjà, depuis les années 20, des juifs qui étaient venus s'installer à Paris. Mais on peut parler d'essentiellement, mais pas d'exclusivement, de cette population juive immigrée, puisque il y avait aussi des juifs déjà dans les années 20 qui vivaient dans des îlots insalubres, dans des conditions misérables, et Lozé a continué ce travail. Alors, ce qui est important de dire aussi, c'est que Lozé, initialement, était créé pour venir en aide aux populations juives dans les shtetls, et progressivement, son travail s'est porté plus exclusivement vers l'enfance juive, et a pris tout un relief pendant l'occupation en France, avec le sauvetage de plus de 3000 enfants juifs en zone nord, mais également en zone sud.
Justement, une très grande partie de votre ouvrage, Sabine Zeitoun, est consacrée à la période de l'occupation, une période extrêmement complexe pour Lozé, du fait de la menace permanente qui pèse sur la population juive, mais aussi parce que Lozé va se retrouver rapidement sous la coupe de l'UGIF, scindée en deux, entre la zone occupée et la zone libre. Elle va vite se retrouver face à un dilemme, c'est-à-dire mener son action dans le cadre légal, ce qui l'obligerait notamment à donner des listes des noms des enfants dont elle s'occupe, ou entrer dans la clandestinité. Comment va être résolue cette question ?
Alors, Lozé n'était pas sous la coupe de l'UGIF. Lozé était complètement intégré au sein de l'UGIF, à savoir que toutes les associations juives zone nord, zone sud, mais là plus particulièrement en zone sud, si elle voulait continuer de vivre, si elle voulait continuer à rentrer dans les camps d'internement, si elle voulait continuer à avoir des centres médico-sociaux ou même des maisons d'enfants, où l'OSE a accueilli peut-être pour chaque maison environ une centaine, donc l'OSE avait 15 à 18 maisons d'enfants, donc ça fait 1500 à 1800 enfants, donc ce qui est énorme. Donc si l'OSE voulait continuer cette vocation médico-sociale envers l'enfant juif, elle était obligée de rentrer dans l'UGIF. Mais l'originalité de cette œuvre, de l'œuvre de secours aux enfants, c'est d'avoir su jouer, si vous voulez, entre cette légalité et cette résistance, c'est-à-dire utiliser tous les moyens légaux pour venir en aide à la population juive. Et le tournant, ça a été août 1942. C'est-à-dire que tant que l'OSE pouvait rentrer dans les camps, apporter de la nourriture, pouvait soigner, pouvait, surtout très important aussi, libérer des enfants, les sortir des camps, les mettre dans les maisons d'enfants, et ensuite ces enfants, pour certains, pouvaient se volatiliser. Donc l'OSE a utilisé cela. Et à partir d'août 1942, il va avoir progressivement une évolution entre légalité et illégalité, avec un homme qui a joué un rôle déterminant, qui est le docteur Joseph Weil, qui lui apprenait très vite, dès 41, il voulait que l'OSE rentre dans la clandestinité. Il y avait des réticences aussi. Ça, c'est très important aussi de comprendre la psychologie des individus qui voulaient, certains voulaient rester dans les maisons d'enfants, d'autres disaient. D'autres parlaient du prophète en riant du docteur Joseph Weil. Donc c'est lui aussi qui a permis cette prise de conscience des membres de l'OSE, comme André Salomon, qui a été l'une des personnalités qui a créé, qui a aidé, disons, Georges Garel à la création du circuit clandestin. Donc l'OSE a su jouer de cette légalité avant, progressivement, de basculer dans la clandestinité.
Il y a aussi cette différence entre zone libre et zone occupée. Je crois que dans la zone occupée, l'OSE ne pouvait pas pénétrer dans les camps.
Oui, en zone nord avec le docteur Minkowski, l'OSE par exemple n'a pas pu rentrer au camp de Drancy, ou alors dans le vélodrome d'hiver où des milliers de personnes y sont restées pendant plus de deux jours. Mais l'OSE avait créé, donc grâce à sa notoriété d'avant-guerre, l'OSE avait déjà des contacts avec la Croix-Rouge, avec la CIMAT par exemple. Donc l'OSE avait déjà tout un réseau, comme c'est une association à vocation caritative médico-sociale. Donc l'OSE avait déjà des réseaux, et grâce à ces réseaux, l'OSE a pu aider, par exemple, à Pithiviers-Bonne-la-Rolande, la Croix-Rouge pouvait envoyer des colis, ou comme la rue Amelot aussi. Donc l'OSE passait par d'autres structures pour essayer de faire entrer des colis de vêtements ou alimentaires pour les populations internées. Mais l'OSE, en zone nord, avait une petite représentation légale, et parce que c'est le docteur Minkowski qui a voulu rester, puisque la direction centrale de l'OSE était partie en zone sud, et c'est pas faute d'avoir demandé au docteur Minkowski de fermer boutique et de venir en zone sud. Mais comme docteur Minkowski était un grand professionnel et était aussi l'âme de l'OSE, cette âme russo-polonaise, donc il a voulu rester à Paris, et durant toute occupation, à aucun moment l'avenue de Champs-Élysées a fermé ses portes.
C'était d'autant plus important que, outre ces activités, les centres médico-sociaux, etc., il y avait aussi des enfants qui étaient placés dans des familles d'accueil, qui étaient visités régulièrement par les membres de l'OSE, c'est ça ?
Voilà, donc à partir, on va dire, le tournant, si vous voulez, août 1942, avec les grandes rafles en zone sud, où la zone sud n'était pas encore occupée par les troupes allemandes, à partir de ce moment-là, il y a eu une prise de conscience qui a vraiment été véhiculée par le docteur Joseph Weill pour que, avec, à la fin de l'année 42, début 43, le circuit Garrel du nom de son fondateur Georges Garrel a pu se mettre en place. Alors le circuit Garrel, c'était vraiment une opération, on peut parler même de très révolutionnaire. Il s'agissait de s'appuyer sur les organisations non juives qui existaient, de s'appuyer sur toutes les connaissances de Mgr Saliège, de Mgr Théas, de toute la mouvance chrétienne, de tous les diocèses, pour recevoir des enfants. Donc il y avait le côté diocèse catholique, le côté chrétien, on va dire, et aussi le rôle de ces femmes qu'on appelait ariennes pures ou aspécifiques, c'est-à-dire des femmes juives mais non typées entre guillemets, qui ont fait des kilomètres et des kilomètres, que ce soit à pied, que ce soit en vélo, accompagner des enfants, prospecter dans des villages. Généralement, c'était des villages et non pas les villes, puisque il fallait faire attention de préserver l'anonymat des enfants, donc de prospecter, de cacher ces enfants, et ensuite, très important, de suivre un petit peu, de voir ces enfants, puisqu'il y avait une rémunération, ce n'est pas honteux de dire, il fallait vivre, il fallait habiller les enfants, il fallait les nourrir, c'était des bouches à nourrir, et l'oser, par l'intermédiaire de ces jeunes femmes qui devaient avoir 19 ans, 20 ans, c'était des gamines à l'époque, qui prospectaient les villages, qui cachaient les enfants et qui ensuite, une fois par mois quand c'était possible, allaient leur rendre visite pour voir s'il n'y avait pas de problème.
Il y a une chose aussi importante à souligner, c'est que certains de ces enfants venaient des camps, c'est-à-dire que l'OSÉ s'est également battu dans un premier temps dans la légalité la plus totale, en s'appuyant sur le droit, pour libérer les enfants qui avaient été enfermés dans les camps.
Oui, en effet, et c'est là où l'OSÉ a été extrêmement fine et a même peut-être pas compris, mais si, a compris qu'il fallait à un moment donné basculer vers la clandestinité, c'est-à-dire comme une jeune femme comme Ruth Lambert, comme Vivette Samuel, qui était l'ancienne directrice de l'OSÉ, qui se trompait par exemple sur les listes quand il y avait par exemple deux enfants, deux frères, un an, un gamin qui avait 14 ans et l'autre 15 ans, la limite c'était 15 ans. Au début, elle se trompait, mais de façon non volontaire. D'ailleurs, André Salomon a disputé Vivette Samuel parce que ça allait mettre tout en péril, ce côté légaliste. Et après, progressivement, on s'apercevait que, surtout le tournant qui a été les rafles, où eh bien, on prenait un petit, on le mettait sous sa cape et on pouvait passer. Et aussi le rôle très important des commissions de criblage. Ces commissions de criblage qui se réunissaient avec des membres de l'OSÉ, avec des membres de la CIMADE, avec Gilbert Lesage et également des membres officiels des camps et du ministère, et où il y avait des dérogations qui étaient complètement légales. Mm-hmm. Et là, l'OSÉ a pu se battre à aller chercher des cartes d'identité dans les logements des personnes qui étaient en instance de déportation. Et grâce à ces commissions de criblage, surtout par exemple, on parle de la rafle de Vénissieux en août 42, où 108 enfants ont pu être arrachés de la déportation. Il devait y en avoir peut-être 3-4 qui étaient sous les bancs de la camionnette, mais ces enfants ont été arrachés de la déportation grâce aux dérogations légales de l'époque.
Alors que, comme vous le soulignez, les enfants sont menacés à leur tour de déportation, que les maisons d'enfants ne sont plus sûres, l'OSÉ va se tourner vers une autre forme de sauvetage, c'est l'émigration, vers les États-Unis, la Suisse et la Palestine.
Oui, c'est utiliser tous les moyens légaux. Donc, dès la fin 40, André Salomon, qui avait été replié d'Alsace-Lorraine, elle était en Dordogne. Et dès la fin 40, c'était quels sont les moyens de venir en aide. Donc, à ce moment-là, on ne parlait pas de déportation, bien entendu. C'était des enfants, généralement, qui venaient d'Allemagne, qui venaient de Pologne, qui se retrouvaient seuls. Certains étaient orphelins et d'autres aussi dont les parents avaient été internés dans les camps de Gurs et ensuite dans le camp de Rivesaltes. Et c'était trouver une solution d'émigrer complètement légalement l'émigration vers les États-Unis. Et je crois qu'il y a eu à peu près 320 à 330 enfants qui ont pu émigrer légalement. Et à partir de... avec l'entrée des États-Unis en guerre, les frontières se sont fermées et malheureusement, cela n'a pu être plus être possible. Ça a été un travail extrêmement intense, extrêmement difficile d'obtenir des visas de sortie, des visas d'entrée, mais c'était aussi une manière d'espérer peut-être et d'essayer d'évacuer un maximum d'enfants. Mais après août 42, les choses n'ont pu être possibles et il fallait sauver des enfants sur le territoire français. Et plus les mois défilaient, et plus il fallait trouver une autre solution. Ça a été le passage vers la Suisse, les passages clandestins vers la Suisse. Un convoi est parti en Espagne vers la Palestine, composé d'une quinzaine d'enfants, mais c'était des enfants les plus aguerris, les enfants plutôt des adolescents avec une volonté de rejoindre la Palestine. Et ce convoi a été menée par Elisabeth Hirsch, Beugie Hirsch, qui était aussi une grande dame.
Comment toutes ces actions ont-elles été financées ?
Principalement par le Joint. Le Joint est une organisation juive américaine qui, dès 1912, est venue en aide à Lozé. C'est-à-dire que très vite, avec le docteur, Lazare Gourvitch, qui n'était pas médecin, qui était plutôt juriste, très vite, des liens se sont tissés avec le Joint aux États-Unis, à savoir aider les populations juives à devenir autonome. C'était la philosophie du Joint. Et malheureusement, au fil des années, et surtout sous l'occupation, l'aide financière qui était indispensable pour venir en aide aux populations juives, à savoir donner la pension alimentaire ou des enfants, mais tout essentiellement, peut-être pas exclusivement, puisque Lozé en Pologne, en Roumanie, avait créé aussi avait fait des collectes pour venir en aide à ces populations. Mais c'était le Joint qui a...
financé principalement.
Oui, qui est venu en aide.
Pour terminer, Sabine Zeitoun, est-ce que vous pouvez me dire combien d'enfants ont pu être aidés, sauvés, mais aussi aidés grâce à Lozé pendant...
Écoutez, Lucien Lazare donne le chiffre de 10 000 enfants juifs qui ont été sauvés, qui ont été épargnés. C'est vrai que sauver un enfant, il faudrait revoir peut-être cette typologie.
Merci Sabine Zeitoun. Je rappelle que l'histoire de Lozé, de la Russie tsariste à l'occupation en France 1912-1944, vient de sortir aux éditions de l'Harmattan et que vous pouvez également aller voir l'exposition Sauver les enfants à l'hôtel de Soubise aux Archives nationales à Paris jusqu'au 26 novembre 2012, une exposition soutenue par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. C'était Mémoire vive. Deux sites pour retrouver l'émission, radio-rcj.info et www.mémoirevive.net.